un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Bonjour Christian Echen.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée et je suis avec Jean-Louis Bagot qui anime pour les auditeurs de Radio Libre en Périgord une émission sur la libre pensée justement. Je vous remercie de consacrer du temps à nos auditeurs. Je précise qu'on est à distance puisque vous êtes en Savoie. Bien, on est en pleine discussion actuellement du plan de loi de finances de sécurité sociale 2025. C'est un projet qui passe difficilement cette année. La libre pensée est très vigilante.
Oui, on a vu les manœuvres et les menées de Barnier, puis avec l'appui, des macronistes et du Rassemblement national. On a vu la diminution très importante des radios locales du budget, ce qui veut dire que à terme, c'est l'asphyxie. Des radios locales, ce qui pose un véritable problème de démocratie, parce que on n'arrête pas de nous dire la démocratie, mais enfin, faut que les gens puissent parler, s'exprimer, s'organiser librement, et là, ça va dans le sens de tout ce que fait le macronisme depuis des années, c'est-à-dire la seule réponse à la crise et aux difficultés et aux problèmes, c'est la répression. Alors, il y a deux moyens de réprimer. On tape sur la tête des gens dans les manifs et aussi on peut leur interdire de s'exprimer à travers ce canal démocratique qui a été conquis de haute lutte que sont les radios locales. Donc, on a vu qu'il y avait une demande de diminution drastique de ça. Apparemment, ça a changé suite à la mobilisation puis le scandale que ça représente. Le problème que nous voyons, nous, c'est que en fait, tant que ça ne sera pas voté réellement, tant que ça ne sera pas consolidé, puisque ça va passer aussi au Sénat, et on voit bien la tactique, de Macron, hein, et les journaux, les médias parlent pour Barnier. À la limite, il risque d'amuser le peuple à l'Assemblée nationale, y compris il y a des amendements qui sont très anticapitalistes, hein, qui sont adoptés. C'est un tel chantier, l'Assemblée nationale. Et il est très clair, Barnier a été, à mon avis, très clair, il compte sur le Sénat, qui est une majorité d'ultra-droite, pour, en fait, en dernier ressort, imposer leur vue. Et donc, y compris remettre en cause tout ce qu'aurait pu être acquis dans l'Assemblée nationale. Ce que j'ai vu dans la tactique parlementaire, le Sénat va démanteler tout ce que peut dire l'Assemblée nationale de positif. Ils démanteleront pas ce qu'il y a de négatif, ça on peut leur faire confiance, mais ils vont démanteler et ça va passer au Sénat, le Sénat va démanteler, et après il y aura une commission mixte paritaire, et d'après ce que j'ai vu récemment dans un article, dans la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ce sont les macronistes qui sont majoritaires. Et c'est eux qui auront le dernier mot. Donc, même s'il y a eu une avancée très positive de rétablissement du budget pour les radios locales, rien ne dit que ça tiendra la mer jusqu'au bout. Alors, nous, la proposition, puisque j'ai vu que Jean-Louis m'avait dit que vous aviez un congrès prochainement des radios locales sur le plan national. Moi, je pense que c'est une suggestion, hein, c'est pas pour m'immiscer, mais je pense que vous devriez lancer un appel à toutes les organisations du mouvement démocratique, laïque, de la gauche et tout ça, pour faire une déclaration signée par le maximum d'organisations en disant que on ne laissera pas faire, si le Sénat et la commission mixte paritaire démantèlent le budget, on ne laissera pas faire et que on appellera à une manifestation nationale en direction du gouvernement pour exiger la défense des radios locales. Et je pense que vous êtes bien évidemment les premiers concernés, donc les mieux placés pour lancer cet appel à l'union la plus large, que ce soit dans les syndicats, les associations, les partis, tout ce qu'on veut, les obédiences maçonniques. C'est vous qui êtes le centre de ça. Nous, la libre pensée, si vous faites ça, on relaiera tout de suite. et on mobilisera nos militants, et on peut, par des biais divers et variés, parce que tout le monde connaît tout le monde, engager une grande mobilisation nationale de signatures, d'associations, d'organisations, de personnalités là-dessus, qui pourraient déboucher, enfin, en tout cas, il faut le dire d'entrée, s'il y a un quelconque problème, il faut organiser une manifestation nationale vis-à-vis du gouvernement. Parce que ne pas croire, vu qu'on connaît ces gens-là, ne pas croire que c'est gagné. Parce que il y a la manche, il y a la revanche. La revanche, ça sera au Sénat, donc ça, c'est on ira t'adraser. Et la belle, ça sera la commission mixte paritaire. Et je pense qu'on a intérêt à engager cette mobilisation et le dire très clairement, très rapidement, parce que ça peut exercer une pression. Parce que ce gouvernement peut sauter du jour au lendemain sur tout et n'importe quoi. On le sait, il tient. Alors là, on n'est pas des jeunes, mais j'ai jamais vu un soutien aussi éhonté de l'extrême droite à la Macronie. Alors, le problème, c'est pas qu'ils soutiennent la Macronie. Le problème, c'est que ça se voit, quoi. Bon, donc, c'est difficile de le cacher. Alors, j'ai vu récemment dans un article de Mediapart que, y compris dans l'électorat de Le Pen, les gens qui ont voté massivement pour Le Pen, enfin, ceux qui ont voulu faire ça, ils l'ont fait sur une ligne qui est dégager la Macronie. On peut en penser ce qu'on en veut, hein, sur le moyen qu'ils ont utilisé. Mais là, il apparaît de plus en plus clairement, y compris chez ces gens-là, le fait que le RN ne veut pas dégager la Macronie. Et que tous les votes qui sont faits à l'Assemblée nationale, notamment par le groupe important du RN, c'est la défense des privilégiés, c'est la défense des capitalistes, c'est la défense de la, c'est la répression tout azimut, c'est contre les immigrés et contre tout ça. Donc tout ça, ça fait un salmigondi intéressant. Moi, je pense qu'il faudrait que vous preniez cette initiative, et je pense que ça rencontrerait un grand écho, parce que le problème avec la question du budget est essentiel, parce que on peut tuer cette démocratie en lui privant de moyens. Il n'y a pas besoin d'envoyer les CRS, il suffit de voter qu'il n'y a plus d'argent. Suite à tout ce que m'a envoyé Jean-Louis, voici ce que je vous propose, que vous lanciez un appel très unitaire, très large, à contresigner, en disant clairement il va falloir faire une manifestation nationale au gouvernement.
C'est vrai que les radios locales associatives, et c'est peut-être là-dessus que le gouvernement a trébuché, sont implantées sur tout le territoire, y compris l'outre-mer, où elles sont très fortes, et il y a des très bonnes radios outre-mer, locales, associatives, et toutes ont réagi et ont alerté leurs élus. Et les élus des territoires, ils savent très bien l'intérêt d'avoir des petites radios comme ça, pour faire la promotion de leur territoire, justement.
Bien sûr.
Donc, mais pour revenir, vous parliez justement de tuer la démocratie avec un budget, effectivement. Les radios libres ont été attaquées, mais c'était une attaque plus globale contre tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, qui échappe au capitalisme, qui sont des emplois qui sont pas délocalisables, qui sont pas jouables en bourse, on va dire. Donc, c'est effectivement une vraie attaque contre la démocratie, parce que l'ESS permet un lien social et une paix sociale dans les territoires.
Ah ben, il y a une chose qui est sûre, hein, vous avez tout à fait raison de globaliser le problème, c'est une destruction au compte d'intérêts privés capitalistes, tout ce qui peut être mutualisé, enfin mutuel, solidaire, sécurité, tout ça, ça doit être détruit et tout ça doit servir à financer le capital spéculatif financier. Et donc, en plus, toute cette économie solidaire, moi j'ai été président de mutuelle pendant 30 ans, donc c'est quelque chose que je connais bien, c'est un peu quand même une contre-économie capitaliste. C'est quelque chose qui n'est pas sur les mêmes bases, même si faut pas être bisounours, mais c'est quand même l'esprit de solidarité. Tout ça, ça doit être détruit par le capital financier pour que ça soit mercantilisé, vendu et que ça rapporte des choses. Donc c'est vrai. D'ailleurs, si vous faites cet appel, vous pourriez le donner un peu cette dimension. C'est un problème global. C'est-à-dire que on est vraiment, bon, nous, c'est un peu notre truc, hein. On est vraiment, pour nous, dans le dilemme qui a toujours été le vrai dilemme, mais là qui prend une acuité importante, c'est socialisme ou barbarie. C'est quelle société on veut? Est-ce qu'on veut une société qui libère, qui émancipe, qui instruit, qui donne les moyens aux gens, ou est-ce une société d'oppression? Et ce qui veut dire que le clash, pour l'instant, il a eu lieu sur le plan électoral, comme il peut pas y avoir, pour l'instant, de débouchés, c'est difficile, il aura lieu ailleurs, obligatoirement. Et c'est ça qu'il faut se dire et qu'il faut préparer. De toute manière, les gens se laisseront pas assassiner comme ça. Moi, j'en discutais avec des camarades militants du Parti communiste, par exemple, qui disaient que quelque chose de très juste, quand vous regardez dans les 30 dernières années, il n'y a pas eu un moment de calme. Il n'y a pas eu un moment où il n'y a pas eu de contestation, de mouvement. Alors, le mouvement, il part ici, il part là, il s'éteint, il revient, il remonte. Mais à chaque fois, il monte en puissance. Et à un moment donné, le couvert sur la cocotte, ça ne pourra plus tenir. Donc, je pense qu'il faut se préparer à ça. Et il faut bien dire que c'est un problème global. C'est, au sens noble du terme, c'est un problème politique. C'est quelle société on veut.
Tu as évoqué l'importance des associations dans la mobilisation sur la question donc du budget 2025. Moi, me revenait à l'esprit que, alors c'est très important parce que la dernière fois qu'il y a eu une sorte de mobilisation de mouvements associatifs, c'était pour manifester leur opposition à la loi séparatiste. On avait noté ça, hein, il y avait des prises de position importantes et c'est sur cette toile de fond que se construit cette situation que tu viens d'évoquer. Et pour nous, c'est quand même quelque chose de très important, cette mobilisation contre la loi séparatiste. Et à mon avis, c'est intéressant de la garder en mémoire par rapport aux questions auxquelles qu'on a traitées aujourd'hui.
Ah ben, c'est sûr que le débat qui est posé, c'est répression ou liberté, hein. Et sur tous les plans, c'est ça. La loi, c'est nous, on a combattu la loi séparatiste et on la combat encore. Les effets quotidiens de cette loi. Alors vous êtes obligé en tant que radio locale pour avoir des subventions de signer la plupart du temps des contrats d'engagement républicain, ce qu'on comprend parfaitement. Même si on est contre les contrats d'engagement républicain, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est que on vous dit il faut que vous vous engagiez à défendre les valeurs de la République. Sauf que déjà, il y a un vice au point de départ. C'est pas aux associations de défendre les valeurs de la République, c'est à la République elle-même et aux institutions de la République. C'est-à-dire que on fait reporter le poids de la défense des valeurs de la République, de la laïcité, de la démocratie sur les associations. Mais les associations, les organisations, les partis ne sont qu'un vecteur de ça. Et on émancipe complètement le gouvernement et les institutions de faire ça. Puis après, c'est la tarte à la crème sur les valeurs de la République que personne n'est capable de définir. D'abord, on en a beaucoup discuté, nous aussi, ces dernières années. D'abord, on sait pas ce que c'est que les valeurs de la République. Ils sont pas capables de les définir. Et puis, on ne mobilise pas sur des valeurs et on n'agit pas sur des valeurs, on agit sur des principes. Par exemple, liberté, égalité, fraternité, c'est pas des valeurs, c'est des principes. C'est tellement vrai que, par exemple, si vous pouvez démontrer que on vous a fait un traitement injuste en remettant en cause le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, vous allez au tribunal et, en théorie, vous gagnez. En tout cas, c'est là que ça joue. La fraternité, c'est aussi... On a vu quelque chose d'extrêmement important sur une décision du Conseil d'État sur la personne là qui est dans le Sud-Est, qui aidait les migrants et qui a été pourchassée, réprimée et tout ça, et qui a été, innocentée, relaxée. Et le tribunal a dit, c'est le principe de fraternité envers les migrants. On fait pas n'importe quoi. Bon, et il y a le principe de la liberté. Et là, dans le problème qu'on a sur les radios locales, c'est exactement le problème de la liberté. C'est la liberté de s'exprimer, la liberté d'exister, la liberté d'exprimer un point de vue. Donc tout ça, c'est cohérent chez eux. Et ils nous vendent les valeurs de la République. Ils savent même pas ce que c'est. Ils sont incapables de le définir. Mais ils remettent en cause les principes. Et c'est important d'expliquer que la question des valeurs parce que les valeurs, c'est dans une idéologie. C'est l'idéologie, les valeurs. Alors, on peut s'y reconnaître ou pas, ça, c'est la vie, une fois qu'on les a identifiées. Mais l'État n'a pas à émettre une idéologie quelconque. Une idéologie d'État, on le sait ce que c'est. C'est le totalitarisme. C'est-à-dire, c'est l'État qui vous dit, voilà ce que tu dois penser. Voilà ce que tu dois pas penser ou pas dire et pas faire. L'État, c'est la même chose que la laïcité. Sur le terrain des conceptions métaphysiques et philosophiques, l'État doit être neutre. Il n'est pas là pour dispenser une idéologie, l'État. Il est là pour assurer la défense des citoyens et des concitoyens. Il n'est pas là pour dire, vous apprenez le catéchisme. Parce que si c'est ça, on a quelques exemples historiques d'États qu'on fait ça. hein, et sur toute la planète. Donc c'est véritablement derrière la loi séparatisme, derrière les contrats d'engagement républicain, derrière ce qu'ils font aux radios locales et aux associations, c'est réellement en fait la démocratie qui est mise en cause. Et on veut, et d'ailleurs c'est tout à fait logique, c'est pas un hasard non plus si ce sont les mêmes qui mettent, même avec difficulté, en place le service national universitaire. Faut faire marcher au pas les gens, pour leur apprendre à obéir, pour pas leur apprendre à réfléchir. Alors bien évidemment, la radio, ça permet de réfléchir. Moi, je me rappelle quand il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie, quand j'étais jeune, comme on dit dans Star Wars, quand on écoutait par exemple le soir, la nuit, en cachette de nos parents, les émissions de Claude Villers, Marche ou rêve, hein, qui était un ouvre-boîte à intelligence, ça offrait plein de réflexions et ça formait déjà. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on veut interdire. Donc je pense que c'est effectivement un combat d'ensemble. Et puis l'autre aspect de la loi séparatisme, nous on le voit très très clairement en tant qu'association dans les départements, et même à Paris, si vous n'avez pas signé un contrat d'engagement républicain, c'est la croix et la bannière pour se réunir. Hein. Alors c'est pour ça que nous, par exemple, c'est un petit détail, mais à la Libre Pensée à Paris, on prête de plus en plus notre salle de réunion à toute une série d'organisations, de syndicats, de partis, d'associations, parce que ça devient très difficile de se réunir. Et si pour pouvoir se réunir, pour discuter de ce qu'on pense, il faut déjà signer un truc en disant on renonce à penser puisqu'on a signé le contrat d'engagement républicain sur les valeurs de la République, ça devient un non-sens absolu. Et heureusement qu'en province, c'est quelque chose de fort qui est en train de se dégager. Il commence à y avoir une véritable solidarité entre les associations et les organisations. C'est-à-dire que quand une association a un lieu de réunion, de plus en plus, elle le prête aux autres. Et donc, il y a une sorte de société, comme on disait il y a longtemps, underground, qui se met en place. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une fracture dans le pays, dans la société, entre deux mondes. Donc c'est ça qu'il faut bien expliquer et qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je reviens à ça, je l'appelle pour une manifestation nationale. Comme ce gouvernement tient sur une tête d'épingle, c'est de toute manière, on est clair, je crois qu'on est tous d'accord, c'est pas par la discussion et à tchatch qu'on va régler le problème. Hein. Il ne s'agit pas de les convaincre. Hein. On n'est justement pas dans un débat idéologique. Bon, c'est comme, si vous voulez, c'est aussi une réflexion qu'on a en ce moment sur l'extrême droite et le fascisme. Il y a des gens qui nous disent qu'il y a une extrême droitisation de la société. C'est pas vrai. Notre institut de recherche a fait une étude là-dessus sur le bouquin de
Diverge.
Il y a une extrême droitisation des médias et de la classe politique. Mais il n'y a pas une extrême droitisation de la société. Au contraire, entre nous, c'est pas mon truc, mais s'il y avait une extrême droitisation de la société, Mélenchon aurait pas fait 22%. Hein. Au présidentiel. Donc c'est un peu les superstructures, les technostructures qui font ça. Mais sur le fond, il y a une véritable résistance. Et on nous explique qu'il y a une extrême droitisation parce que les gens adhèrent aux idées de l'extrême droite. Donc il faut combattre les idées de l'extrême droite pour régler le problème. Sauf que le seul petit problème, c'est que l'extrême droite, elle a tout sauf des idées. Nous, j'ai chroniqué un livre d'il y a quelque temps de Robert Paxton, qui est le spécialiste américain du régime de Vichy, qui est quelqu'un de tout à fait formidable, qui explique très bien que l'extrême droite et le fascisme, c'est pas l'idée, c'est l'action. L'action d'abord, le coup de force, les bandes armées, les violences, et après, selon les circonstances, on habille plus ou moins ça avec une apparence d'idée. Et l'idée peut changer en fonction du coup de force qu'on a fait. Donc combattre les idées d'extrême droite au nom des valeurs de la République, c'est uriner dans un Stradivarius. Hein. Bon, donc c'est pas ça. Il n'y a pas d'extrême droitisation. Il faut combattre, il faut mobiliser, parce que de toute manière, les gens ne peuvent pas se satisfaire de leurs conditions. De la même manière que pour les radios locales, si on vous supprime votre budget, vous allez pas dire ah ben ouais, idéologiquement les minoritaires on accepte. Ben non, on n'accepte pas. Donc c'est le combat qui est mené. Et le combat sera. On sent que en plus, dans la vie quotidienne, on sent qu'il y a une tension énorme. Les gens sont très énervés. Alors, c'est pas toujours bien, hein, mais c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans une veillée d'armes.
Les gens sont en colère.
Quand on voit ce qui se passe en Espagne et les réactions, et là aussi, il y a une note très intéressante
de l'Institut de recherche là, dont j'ai pris connaissance. C'est extrêmement instructif, là, ce mouvement, c'est une véritable armée, notamment de jeunes, là, qui se dirigent vers la région de Valence, indépendamment de l'État, et comme le dit l'auteur du texte, et donc contre l'État. C'est une richesse. Et ça se poursuit là, aujourd'hui encore, hein, j'en ai les informations. La colère.
Ils nous ont essayé de nous vendre le SNU en disant les jeunes ne veulent plus s'engager. Enfin, la preuve que les jeunes ils veulent s'engager quand la cause elle est juste. Puis alors on nous a aussi vendu en Espagne, le roi est très populaire. Ce qui en était, hein, du roi, la popularité du roi.
C'est les petits airs de Révolution française.
Ah oui, oui. Ça commence à sentir la guillotine.
Mais effectivement, quand on nous parle extrême droitisation de la société, moi j'ai surtout l'impression qu'au niveau local, il y a surtout une solidarité qui se met en place entre les gens, des réseaux. L'exemple des migrants avec Cédric Héroux que vous avez indiqué tout à l'heure est flagrant pour ça. Et en même temps, le fait qu'il se retrouve au tribunal parce qu'il a aidé des migrants dans la montagne perdue dans le froid en train de mourir, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, c'est quand même complètement contradictoire avec le fait que la non-assistance à personne en danger est punie en France. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir des lois qui se rentrent dedans comme ça, qui s'opposent? Et on a l'impression que ce budget, c'est un petit peu la même chose, quoi.
Ah, tout à fait. C'est bien la preuve que les valeurs, c'est du bidon, parce que s'il y a quelque chose dans l'individu qui a une valeur, c'est l'aide aux autres. C'est aider les gens. Et là, on réprime, et vous avez tout à fait raison, on opprime quelqu'un parce qu'il aide les gens, parce qu'il ne veut pas les laisser crever.
Non, mais c'est vrai que malheureusement, on essaye de nous imposer à travers les médias toutes ces idées d'extrême droite, l'idée que notre sécurité vaut plus que notre liberté et que les deux ne sont pas compatibles, en fait, quelque part. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire avec toutes ces lois qui sortent, Hadopi, séparatisme, etc. On peut penser quand même que, comment dire, le Parlement va tenir à peine une année, puisque de toute façon, il faut qu'il tienne une année, là.
Et encore, si vous voulez, nous, on pense que c'est la nature du régime de la Ve République, hein, que Mitterrand, au début, avait qualifié de coup d'État permanent, puis après, il s'en est bien accommodé.
Oui.
Moi, je pense que on n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Alors, on ne sait pas sous quelle forme ça peut se faire. Mais quand on voit la place que prend la police et les armées de répression, la question de l'armée et de la militarisation de la société, par exemple, moi, comme j'aime bien l'histoire, quand j'ai vu ce qui se passait en Martinique et en Nouvelle-Calédonie, les images d'affrontements, de violence, ben ça m'a rappelé, alors moi j'étais tout minot, mais ça m'a rappelé l'Algérie, hein. Et rien, à mon avis, n'empêchera en Nouvelle-Calédonie que les Kanaks conquièrent leur indépendance. Mais ça sera à quel prix aussi, hein, parce que l'Algérie, c'est 1 million de morts. Point de vue là, tout ça est concentré effectivement dans ce combat pour la liberté. Et je pense vraiment que les radios locales peuvent, alors elles n'ont pas toute la solution en main, ça serait trop simple. Mais je pense qu'elles, parce que justement il y a un maillage du territoire. Et pour le gouvernement et tous ces gens-là, c'est insupportable que les gens puissent s'exprimer librement. Si vous voulez, j'ai une autre proposition à vous faire. Ce qui serait bien, Jean-Louis, c'est de faire une interview de notre camarade pour La Raison. Sur la question des... Parce que dans La Raison, c'est notre mensuel, puis on a une newsletter qui diffuse à 13 000 exemplaires. On pourrait vous faire une interview parce que nous, on sait, mais est-ce que tout le monde sait ce qui se passe sur les radios locales? C'est pas sûr, hein. Bon, il y a quand même un martelage, et je pense que il y aura un intérêt de faire une interview pour expliquer ça. Et ce qu'il y a derrière, c'est pas un intérêt de boutique. C'est pas touche pas à la radio. Pas simplement.
Non. Parmi les députés, il y en a quand même qui aimeraient qu'on contrôle plus ce qui est dit sur les radios.
Ah, oui. le contrôle.
Voilà, le contrôle. Donc ça aussi, on a déjà un double contrôle, l'ARCOM et le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc on est les plus contrôlés qui soient finalement.
Et puis le contrôle, ça serait bien qu'il contrôle aussi CNews et tous ces gens-là.
Oui. Et puis normalement, c'est plutôt, me semble-t-il, dans la constitution de notre République, aux citoyens de contrôler l'État.
Oui, tout à fait. Et pas à l'État de contrôler les citoyens.
Il me semble.
Mais au sujet de CNews, j'entendais quand même quelque chose de faramineux tout à l'heure sur France Inter. c'est que dans le cadre des émissions spéciales pour les élections américaines, France Inter a choisi, je ne sais plus si c'est le terme partenariat qu'ils ont utilisé, mais enfin, ça ressort un peu de ça, CNews comme chaîne tout à fait indépendante et
Ah,
d'information
et
pour traiter.
objective, et objective.
Voilà, il s'était dit tout à l'heure sur France Inter, j'ai fait un bond.
Ça me fait toujours penser au sketch de Coluche. On n'est pas de gauche, on n'est pas de droite, mais on n'est surtout pas de gauche. Donc,
Très bien, mais
Donc sur la question des libertés, je pense que le sujet a été traité par l'angle sous lequel nous puissions
oui.
aborder les choses. Je voulais simplement dire, puisque tu as évoqué deux documents de la libre pensée qui sont importants, c'est-à-dire la note sur le bouquin de Tiberge et un peu plus anciennement, ce qui avait été écrit là, sur le bouquin de Paxton. Ce sont deux documents que j'ai utilisés pour les soumettre aux réflexions des auditrices et auditeurs de Radio Libre Amplicor dans le cadre de la chronique que j'assure chaque lundi. Et donc, j'essaye toujours, alors c'est souvent aussi des textes qui proviennent de Mediapart, hein, souvent des textes que tu suggères, parce que tu nous envoies beaucoup, beaucoup de choses qui sont. J'aimerais avoir le temps de tout lire dans le détail, pour ça, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que j'y trouve souvent des éléments où je me dis, tiens, ça, c'est quelque chose qu'il faut lire à l'entête, parce que ça permet aux auditrices, aux auditeurs de conduire une réflexion, et souvent sous un angle inattendu ou inhabituel.
Oui, sur la question de l'extrême droite, cette nuit, on diffuse dans notre newsletter une déclaration qu'on a élaborée sur l'extrême droite pour expliquer un certain nombre de choses et je vais aussi écrire aussi dans la foulée d'autres choses. Ce qui est important, c'est que le développement de l'extrême droite s'appuie sur la pourriture de la Ve République. Ça a toujours été le cas, hein, parce qu'on se souvient, si le RN est monté, le Front National est monté, on sait pourquoi, hein, et ce qu'a fait Mitterrand et tout ça pour diviser la droite, pour garder le pouvoir et tout ça. Ça, c'est extrêmement important, mais l'idée qu'on a, c'est le meilleur moyen de. Il y a deux outils pour battre l'extrême droite. Hein. D'abord, c'est pas pleurer dessus, c'est reconstruire la République dans tous ses aspects. On sait que l'une des motivations indirectes, c'est par exemple la destruction des services publics, le fait que pour les urgences, il y a tout ça, donc ça accroît un mécontentement très profond dans la population. Et alors,
Et
il y
une
en a qui.
insécurité.
Oui, et il y en a qui utilisent des voies de garage
Ouais, ouais.
et les dérivatifs qui n'ont pas lieu d'être, qui sont l'extrême droite. Mais on sait que c'est ça qu'il faut répondre. Et puis, il y a, comment dirais-je, en ce moment, je lis beaucoup de choses sur Hitler, ce qui est toujours très intéressant, Mussolini, février 34 en France et tout ça, et que c'est l'unité, on va dire, de la gauche, du mouvement ouvrier, qui a balayé ça. Alors, en Allemagne, ça n'a pas balayé, puisque c'est la division entre le Parti socialiste et le Parti communiste qui a fait que Hitler a pu passer. Ça, c'est une leçon d'histoire à tirer. Et en France, par contre, en février 34, c'est l'unité de la gauche qui a balayé pour un temps l'extrême droite. Mais aujourd'hui, le problème ne se pose plus de cette manière, à mon avis, parce que c'est pas, on va, bon, parler jargon, c'est pas l'unité entre le Parti communiste et le Parti socialiste, aujourd'hui, malheureusement, hein, on peut dire, qui va régler le problème. Donc, et si, à force de parler de l'unité et tout ça, on permet à des gens, c'est pour ça qu'il faut être très clair, on permet à des gens de valider le Front républicain. Parce que le Front républicain, quelque part, c'est un peu l'unité. Bon, alors, c'est une unité pas de gauche, hein, mais c'est. On va dire l'unité des républicains. Or, le Front républicain est la meilleure machine pour faire avancer l'extrême droite. La seule véritable solution, c'est que dans une situation de crise comme ça, faut tout mettre à plat. Et c'est pour ça que nous, on met en avant la question de la constituante élue et souveraine. Maintenant, il faut redonner la parole au peuple. Et redonner mais véritablement la parole au peuple. Pas simplement pour élire une assemblée nationale, qui de toute manière reste dans les institutions de la Ve République, qui est corsetée. Et il faut vraiment faire ce qu'ont fait toutes les révolutions. 89, 93, 48, 44, c'est le problème de la constituante. Parce que tant que c'est pas le peuple qui décidera, on lui imposera d'autres volontés. Et je crois que vraiment, plus que la question de l'unité, bien sûr. Moi, je préfère l'unité à gauche, hein, que la division. Maintenant, on voit bien, sans rentrer dans les détails, que à gauche, faire l'unité avec Manuel Valls, hein, il y a quand même chez Valls du Marcel Déa, le talent en moins, malheureusement pour le dire. Enfin, ou heureusement pour Valls, il a aucun talent. C'est, mais il est en train de devenir un vrai facho, ce mec-là. Et tous les gens du Printemps Républicain, de tous ces pseudopodes, c'est des vrais fachos. Et puis, il faut pas grand-chose, hein. On l'a vu avant la guerre pour basculer, hein. Je cite toujours l'exemple de Doriot. Doriot, il a rompu avec le PCF sur une base correcte, parce qu'il était contre la division entre le PS et le Parti communiste. Ça a donné qu'il est mort sur le front de l'Est en uniforme de la Waffen-SS. Hein. Faut être, comment dirais-je, assez lucide sur ces questions-là. Et donc, la question, la seule solution, c'est le grand inconnu dans la situation, c'est le peuple. Et donc, c'est lui donner les moyens de s'exprimer, et la constituante est la forme traditionnelle, démocratique, républicaine et révolutionnaire, pour que le peuple... Parce que sinon, tout ce qu'ils font, c'est en fait raccommoder la Ve République, qui est un raccommodable. Donc, faut foutre en l'air les institutions, quoi. Parce que en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de gens de l'extrême droite à une certaine gauche. Faut pas toucher à la Ve République, quoi. Ce qui a été, nous, on a analysé ça, ce qui a été symptomatique. Alors nous, on s'est pas prononcé sur fallait-il destituer Macron et tout ça. C'est le problème des partis politiques. Ça, c'est pas l'autre. Même si on regarde ça avec intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les réactions qui ont eu lieu à gauche, notamment. Faut pas toucher au président de la République. Et au nom de quoi faut pas toucher au président de la République? Ben, c'est quasiment ce qu'a fait la France Insoumise, c'est quasiment un délit de blasphème.
Hein. Ils ont essayé de faire rentrer quand même dans la loi, sous une autre forme, le délit de blasphème.
Ah oui. Là, par exemple, vous avez, j'ai vu dans la newsletter de l'Humanité de ce matin, qu'un réac à l'Assemblée nationale, c'est pas ce qui manque, hein, faisait une proposition de loi assimiler l'antisémitisme à l'antisionisme.
Oui. Donc, c'est une façon de museler les gens, ça.
Ah,
aussi.
Bien sûr. Ouais. Bon, parce que c'est dès qu'on fait une critique sur l'État d'Israël, vous le savez bien, sur la politique criminelle qu'il mène, on est un antisémite.
Absolument, c'est comme complètement.
Ça, le débat il est terminé avant d'avoir commencé. Hein.
Oui.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. et le roi des cons sur son trône. Me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants.
Un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.